La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une danse des mots poétique et médiévale, à propos de la parution toute récente dans la collection Poésie chez Gallimard, de ce gros ouvrage qui s'appelle « Du cloître à la place publique » et qui est sous-titré « Les poètes médiévaux du nord de la France, 12e-13e siècle ». Alors, tous ces ouvrages, tous ces textes ont été collationnés par Jacques Darras, qui les a choisis, qui les a traduits. C'est ce que je lis d'ailleurs sur la couverture de ce livre. On pourra s'interroger sur ce que c'est que la traduction ou la mise en français moderne, en gardant quand même un esprit sans faire de stéréotypes et de clichés. En tout cas, c'est un livre qui se lit de façon extrêmement facile et agréable, malgré son épaisseur assez redoutable. Bonjour Jacques Darras.
Bonjour.
Merci bien de venir nous voir.
Merci à vous.
Vous êtes poète vous-même et en particulier vous avez fait paraître, c'est votre dernier ouvrage, dans cette même collection Poésie chez Gallimard, L'indiscipline de l'eau, en 2016. Et puis là, on a Du cloître à la place publique avec une sorte de florilège de cette poésie des 12e et 13e siècles. Alors, poésie de qui? Très souvent, on oppose les troubadours aux trouvères en disant « les troubadours, vous voyez bien que ça sonne méridional, les trouvères, c'est la même chose, mais c'est dans le nord de la France ». Est-ce que les poètes que vous avez choisis dans cette anthologie, on peut les appeler des trouvères?
Oui, bien sûr.
Eux-mêmes, d'ailleurs, s'appellent comme ça de temps en temps.
Ils s'appellent comme ça. Ils s'appellent aussi jongleurs. C'est-à-dire que le jongleur est celui qui connaît plusieurs textes par cœur et qui les dit lors des foires, lors des marchés, sur les places publiques, parce que on se fait une assez mauvaise image de cette poésie, parce qu'elle est assez âgée, elle est vieille, elle a presque 1000 ans, à quelques dizaines d'années près. On oublie qu'elle est essentiellement écrite pour être dite. Et en vérité, c'est un peu à ça que j'ai pensé. Il ne s'agissait pas de faire un travail d'universitaire. Je suis universitaire moi-même, par conséquent, je sais ce que c'est. Et il s'agissait d'en prendre possession au nom du français d'aujourd'hui et d'essayer de les réintroduire sur nos places publiques à nous, en quelque sorte, dans nos théâtres. D'ailleurs, nous faisons des tournées, si je puis dire, avec mon ami acteur très connu, Jacques Bonafé. Et donc,
qui est un vrai diseur, lui. Je ne sais pas s'il est jongleur, mais il dit très bien.
Je pense qu'il accepte qu'on dise de lui que c'est un jongleur, d'autant plus qu'il est originaire du Nord, que moi je m'appelle Darras, et lui vient de Douai. Et donc, nous faisons un duo, lui et moi, qui essayons de réhabiliter ou de ressusciter cette parole poétique, orale.
Donc, c'était une poésie relativement populaire, Jacques Darras, qui se disait sur les places publiques, par exemple.
Ah oui.
Se disait pour tout le monde. Vous parlez du jongleur, on pense peut-être grâce à Anatole France plus qu'à quelqu'un d'autre, au jongleur de Notre-Dame. Ces jongleurs, ils jonglaient aussi pour de vrai.
Ils avaient
des balles, ils avaient des bâtons, c'était un petit peu l'art de la prouesse, ils montraient leur habileté, et en même temps, c'était des sortes d'aèdes, comme on disait au temps de la Grèce ancienne, c'est-à-dire de poètes diseurs.
Ah oui, et ils savaient par cœur un grand nombre de textes, dont également des chansons de gestes qui sont si peu traduites en français,
Alors, dites-nous, puisque vous en parlez, dites-nous ce qu'on appelle une chanson de gestes et ce que veut dire ce mot geste dans l'expression chanson de gestes, puisque c'est un sens un petit peu particulier.
Ah, gestae en latin, ce sont des exploits. Donc, dans le fond, ce sont des chansons épiques qui racontent des combats, des batailles sanglantes et de façon un peu stéréotypée, mais qui sont souvent très très drôles et qui, j'en ai traduit une en particulier qui s'appelle Gormont et Isambard, dont il reste 600 vers, et qui produit et sur le traducteur et sur les auditeurs, à qui on l'a dit dans la forme octosyllabique et rimée, qui produit une véritable hypnose. C'est absolument prodigieux, quoi. D'où l'importance, justement, de redonner la dimension orale à toute cette poésie. Elle est extrêmement moderne d'allure. Je sais bien que le mot moderne est un adjectif un tout petit peu éculé, mais en vérité, on a vraiment l'impression d'entendre, d'écouter ces jongleurs s'être ouverts comme si c'était hier.
Mais je suis content que vous ayez parlé d'hypnose parce que c'est souvent quelque chose qu'on peut lier à la prosodie, à la poésie à forme fixe, qui fait que justement on va entendre une histoire dite, mais toujours avec le même rythme, avec par exemple un vers de 8 syllabes. Et si ça rime à la fin, ça en rajoute encore dans ce côté hypnotique. La rime sert à ça. La rime, elle sert à hypnotiser.
Et que dire de cette hypnose lorsqu'elle touche des poèmes très particuliers et propres au Nord, propres à la ville d'Arras et à quelques kilomètres autour d'elle, que sont les fatrasies. Les fatrasies sont non seulement hypnotiques, mais elles sont absurdes. Est-ce que je peux lire une fatrasie?
Je n'osais pas vous le demander, mais puisque vous le proposez si gentiment, bien sûr, Jacques d'Arras, qu'on attend votre fatrasie.
Alors, il y a 11 fatrasies de Philippe de Beaumanoir, et en voici une, la dixième. Une vieille chemise se mit dans la tête de savoir plaider, et une cerise s'est devant elle mise pour l'invectiver. N'eût été une vieille cuillère qui, haleine reprise, apportait un vivier, toute l'eau de la Tamise fut passée dans un panier. Alors quand on se trouve devant ça, même en 2017...
On rigole.
On rigole, ben oui. Et on se dit, non mais qu'est-ce qui leur passait par la tête? Et on n'a jamais su lever l'énigme. C'est une énigme. Ce sont des poèmes qui sont, d'une certaine façon, sans queue ni tête, même la queue de cerise, en l'occurrence.
Oui, ça fait penser à ce qui aura beaucoup de succès, par exemple, en Grande-Bretagne au XIXe siècle.
Le nonsense.
Avec tout le nonsense.
La poésie du nonsense.
C'est un petit peu la même absurdité, fière d'elle-même, d'une certaine façon, et très moqueuse.
Et alors, ça suit toujours la règle de 11 vers, 11 octosyllabes.
On sait pourquoi, Jacques d'Arras?
Non,
que vous dites qu'il y en a 11,
je vous réponds.
Parfois, il y en a 55, dont c'est 5 fois 11. Enfin, ce chiffre 11 revient.
C'est 55 pour les fatrasies d'Arras qui sont anonymes. Donc, on pense que Adam de la Halle a dû tromper dans l'histoire, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Elles sont anonymes, elles restent anonymes. 55, 5 fois 11, effectivement. Là, je suis sans réponse. Je ne peux pas vous dire. Il y a énormément d'hypothèses, de théories qui ont été faites sur ces fatrasies. Et en vérité, aucune n'est véritablement authentique ni crédible. Et ça sollicite d'autant l'imagination, si je puis dire.
Et bien, des fatrasies d'Adam de la Halle à celle de Sylvain Rifflet, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir tout de suite, puisque c'est ce musicien, ce saxophoniste, qu'on va entendre maintenant. Une de perdue. Une de perdue. Oh, c'est un genre de fatrasie. Thank you. Jacques Darras, vous venez de nous citer une fatrasie juste avant qu'on entende Sylvain Rifflet, et vous avez cité le nom d'Adam de la Halle, qui est l'un des poètes les plus connus donc du nord de la France et du Moyen-Âge. Un mot sur cet Adam qui était...
Écoutez, c'est un... on sait très peu de choses de lui.
C'est le cas pour beaucoup d'écrivains de cette époque.
On a beaucoup d'œuvres qu'il nous a laissées. C'est, moi, j'emploie le terme le concernant, de génie. C'est un véritable génie. C'est le premier à avoir commencé le théâtre profane dans la littérature française, bien évidemment. Et c'est aussi un aussi grand musicien, compositeur qu'un poète. Et j'en profite, bien que nos auditeurs soient lointains, pour dire que le vendredi 24 novembre à la Maison de la Poésie de Paris, avec Jacques Bonafé, nous disons ces textes et nous sommes accompagnés par l'ensemble choral à la Francesca qui va pour la première fois nous donner des rondeaux et des motets d'Adam de la Halle. Donc c'est un spectacle complet, si je puis dire. Adam de la Halle est un immense poète qui écrit des congés. Il dit adieu au monde. C'est une des formes poétiques de la littérature arrageoise. Dans le cas de la plupart des poètes, il s'agit de gens qui ont la lèpre. Ils attrapent la lèpre. À Arras, il y a 3 ladreries, c'est-à-dire 3 hôpitaux pour lépreux à Arras au XIIIe siècle. Et il y en a 2 en particulier, Jean Baudel, qui est un très très grand auteur également, et Baud Fastoul, et qui écrivent des congés au monde. Ils disent adieu au monde avant d'entrer dans leur léproserie, dans leur ladrerie. Et c'est bouleversant. Ce sont des textes absolument bouleversants. Ils donnent ce congé à tous les amis qui leur ont voulu du bien, en quelque sorte. Ça, c'est une chose que les poètes contemporains seraient bien inspirés, à mon avis, de reprendre. Plutôt que de s'enfermer dans leur tour d'ivoire, c'est de saluer amicalement, généreusement, tous les gens qui leur ont été extrêmement agréables et amicaux.
Des saluts, d'ailleurs, il y en a d'autres.
Il y a des saluts. On salue. Oui. La poésie est un art du salut.
Et les saluts à refrain font référence donc à cette pratique.
Alors, les saluts à refrain sont essentiellement des saluts à une dame. C'est le côté un peu troubadour, côté occitan, si je puis dire. Mais nos amis du Nord, qui viennent un peu plus tard que les troubadours, 50 ans après, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, et qui ont écouté la musique, la poésie des troubadours, ont une conception 1000 fois plus satirique. Ils ont de l'amour une vision extrêmement réaliste, souvent cocasse, parfois cruelle. Et c'est ce qui caractérise cette poésie du nord de la France. On fait un grand pas en quittant l'idéalisation amoureuse des gens du sud vers le réalisme amoureux qu'on va trouver dans le roman, dans les romans du XVIIIe siècle. Mmh. C'est vraiment ça qu'on va avoir.
Oui, parce que vous parlez par exemple des chansons de Conon de Béthune en disant qu'elles sont, très crues et presque sadiques de temps en temps, avec une espèce de jubilation à parler des jeux de l'amour et de la façon dont les hommes se comportent avec les femmes, qui peut paraître proprement scandaleuse, mais qui en même temps correspond à une joie de la littérature érotique.
Oui, mais il n'est pas très heureux en amour, ce Conon de Béthune. Il est partagé entre l'amour des femmes et l'amour de la guerre, et en particulier de la croisade. Et alors, c'est là-bas qu'il va finir par s'illustrer. Il a écrit, ou du moins, il nous reste simplement 10 chansons, et dans ces chansons-là, on ne sait pas très bien de quel côté il est, s'il est pour l'amour ou s'il est pour la guerre. En plus, il parle de toute évidence avec l'accent picard, hein, puisque cette langue, on peut l'appeler une sorte de franco-picard à l'époque. On dit langue d'oil, mais en fait, c'est un franco-picard. Et alors, il dit, j'ai dit mes poèmes devant Marie de Champagne. Marie de Champagne, c'est la petite fille c'est la fille d'Aliénor d'Aquitaine, et c'est un parangon d'amour courtois. Et alors, il dit ses chansons, lui, le picard de Béthune, devant cette Marie de Champagne, et elle le reprend, Marie de Champagne, parce qu'il a l'accent picard. Alors il dit « Oui, je parle français, bien que je n'ai pas été élevé à Pontoise ». Et donc, il est tellement choqué par le comportement, la réaction de Marie de Champagne, en l'occurrence.
Oui, puisqu'il dit « C'est pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt,
voilà,
parce qu'on blâmait mon langage, les François et mes chansons devant les Champenois. Et devant la comtesse, dont plus me pèse, la reine ne s'est pas montrée si courtoise. Me reprenant elle et son fils le rouet, vous m'excusez de dire le rouet.
Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on termine les
bien que ma langue ne soit pas toute françoise, pourtant peut-on bien l'entendre en françois.
Ils ne sont ni éduqués ni courtois de me reprendre si j'use des mots d'Artois, car je ne fus pas élevé à Pontoise.
Alors, justement, qu'est-ce que c'est que cette langue qui parle? Quand on fait un petit peu d'ancien français, très souvent, on vous dit « Ah là, voyez, il y a un trait picard ». Comme on dit, il y a un trait champenois. Est-ce que c'était une variante très différente, par exemple, du français parlé en Île-de-France, qui finira par s'imposer de façon très politique, parce que c'est la langue du roi?
Oui, on pense que le français de l'Île-de-France, le français de la cour, en quelque sorte, le français royal, est une synthèse du champenois, du normand, de l'anglo-normand et du franco-picard, véritablement. Le picard, c'est une langue qui vaut surtout par son lexique. Il y a un lexique absolument foisonnant, abondant, dont il ne reste presque plus de mots dans notre français contemporain, mais sauf pour les gens qui sont du cru. Moi, m'arrive d'employer quelques mots picards.
Ah oui, lesquels, Jacques Darras?
Par exemple, une personne qui est toute recourbée, qui est toute bossue, on dit « Oh, elle est toute ramonchelée ». Elle est toute ramonchelée.
Et alors dites-moi, où est-ce que ce lexique va s'abreuver justement? Est-ce que c'est un lexique qui descend du latin? Ou bien est-ce qu'il y avait des influences germaniques plus fortes?
Les deux. J'ai envie de vous répondre les deux. Pour moi, qui veux simplifier un peu les choses pour qu'on comprenne, c'est du latin dit par des germains. C'est du latin et, par conséquent, qui reste à la consonne, qui garde les consonnes dures. Par exemple, un cheval... C'est ce qu'on appelle la palatalisation, l'adoucissement de du que le latin, caballus, qui donne cheval en français. Hein, la langue s'adoucit, la langue devient courtoise en quelque sorte. Et le picard, même aujourd'hui, dans les champs, dans les campagnes, dit un cheval.
Un cheval.
Un cheval. Caballus, cheval.
Très rapidement, on aura reconnu ce thème magnifique, Monk's Mood. On sait qu'il y a deux jours, on fêtait le centenaire de Thelonious Monk. Oui. Laurent de Wilde, un pianiste du Nord, de la France. Je crois même qu'il est d'origine belge, bien qu'il soit né à New York. S'empresse de l'illustrer avec un extrait de ce disque qu'on vient d'entendre. Alors, Jacques Darras, revenons donc à notre Nord de la France et à tous ces poètes que vous aimez. En gros, qui sont-ils? On sait que très souvent, les troubadours étaient de grande naissance. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Est-ce que les trouvères du Nord viennent d'une origine aussi aristocratique, aussi noble? De toute façon, ils ont fait des études. Hein.
Alors, Conon de Béthune, lui, est un fils de petit seigneur, mais la plupart d'entre eux, Adam de la Halle, Jean Baudel, ce sont dans le fond des bourgeois. De sorte que Arras est la première ville où se constitue ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, avec un peu d'ironie, un syndicat des poètes. C'est la première fois que des poètes et des écrivains, mais surtout des poètes, car à ce moment-là, la poésie est ce qui prime avant toute chose, se rassemblent en une association qui porte le nom de Carité, Carité des jongleurs et des bourgeois, au-dessus de laquelle il n'y a rien. Dit le motto, enfin que je traduis comme ça librement. Donc, ce sont des gens qui sont solidaires les uns des autres et qui paient une cotisation. C'est vraiment quelque chose d'inouï. Rien de tel n'a jamais existé auparavant. Qui paient une cotisation à cette association pour pouvoir, pour les frais funèbres ou funéraires des poètes.
Alors, où sont-ils enterrés, ces poètes?
Ils sont enterrés autour d'Arras ou dans Arras,
oui,
autant
qu'on sache, par exemple,
mais ils laissent, et c'est une archive extraordinairement précieuse, ce qu'on appelle un nécrologe, c'est-à-dire une liste, en quelque sorte, de tous les gens qui postulent au nom de poètes, et ça a été étudié par un spécialiste qui est remarquable, qui s'appelle Roger Berger, j'aime à citer son nom parce qu'il a fait un travail extraordinaire, de sorte que l'on connaît environ 800 à 1000 de ces poètes sur plusieurs années qui faisaient partie de cette association, la Carité des jongleurs Notre-Dame et des bourgeois, jongleurs et bourgeois. Donc ils sont essentiellement de naissance beaucoup plus basse en quelque sorte, mais parmi les troubadours, il y en avait également qui n'étaient pas des nobles.
Oui, bien
nobles.
Sûr, tous n'étaient
Bernard
pas nobles.
Bernard de Ventadour, par exemple, était quelqu'un qui était, je crois, le fils du boulanger du coin, d'une certaine façon. Alors, ce sont des bourgeois. Alors, c'est amusant parce que ils jouent entre tous les pouvoirs et ils subsistent et ils existent, ça fait penser à notre mécénat actuel, en quelque sorte, grâce aux dons que font les bourgeois d'Arras, qui sont extrêmement riches. Arras est une des villes les plus riches au XIIIe siècle de toute l'Europe, avant que cette richesse ne passe à Florence et aux villes italiennes. Car ce sont des banquiers et ils prêtent on disait à l'époque à usure, ils prêtent à intérêt, et ils prêtent à la ville de Bruges, ils prêtent au roi d'Angleterre. On connaît les noms de ces banquiers, ils s'appellent Crépin, ils s'appellent Louchard, et donc on suit leur transactions financières qui sont extraordinaires. Alors avec des gens qui ont tellement d'argent, les poètes vont faire un peu de mendicité. Et alors, lorsque l'un d'entre eux se montre beaucoup plus avare que les autres, eh bien, ils vont voir celui d'en face et ils disent du mal, naturellement, de celui qui les a plus ou moins congédiés. C'est la première forme de littérature urbaine. C'est ça qui est nouveau dans cette région du Nord, en quelque
sorte.
Alors,
Jacques Darras, vous venez de parler de cette corporation des jongleurs et des poètes. Comment est-elle vue par l'Église? Ce qui me fait penser à cette question, c'est ce que vous disiez à propos de leur enterrement. On sait que Molière, il a été envoyé à la fosse commune parce que les comédiens étaient mal vus de l'Église. Ils n'étaient pas enterrés en terre chrétienne. Les poètes du XIIe siècle dans le nord de la France, comment ils se situent par rapport à ça?
Et là, vous ouvrez un chapitre qui attend ces historiens. Je dois dire que moi, je ne fais simplement qu'effleurer le sujet, mais j'attends que se précipitent dans la brèche des historiens.
En vérité, vous voulez dire qu'on n'en sait trop rien, donc.
En vérité, à Arras, il y a la cathédrale, mais qui est dans la cité, la vieille cité romaine, qui est en déclin. Et puis, il y a l'abbaye de Saint-Vaast, et l'abbaye de Saint-Vaast a donné des terrains pour qu'on construise les deux magnifiques places d'Arras. Je ne sais pas si vous connaissez la ville, la Grand Place et la Petite Place, qui sont absolument magnifiques. Elles datent, elles 17e, par la pierre, par le style flamand.
Mais
ces places sont médiévales. Déjà là, depuis le XIIe siècle. Et c'est là que se tiennent les marchés, et c'est là que les poètes agissent. Alors, ce sont des moines, c'est des abbayes, et l'abbaye joue contre la cathédrale. Il y a des rivalités entre les puissances ecclésiastiques, et par-dessus vient le comte d'Artois, Robert d'Artois, qui est le frère de Saint-Louis, Louis IX, et qui est le patron des poètes, et qui crée le puits Notre-Dame. Et donc, tous ces poètes jouent entre toutes les juridictions ecclésiastiques, communales, financières. Ils sont très rusés, ce sont des gens très habiles. Ils montrent effectivement que le poète est celui qui se glisse dans tous les interstices de la société.
Alors, on est presque au bout, j'ai pas le temps de vous poser toutes les questions qui viennent à l'esprit, mais on n'a pas parlé du bestiaire d'amour de Richard de Fournival, où on a l'impression, me semble-t-il, il y a presque un peu de préciosité dans cette façon de parler d'amour. Est-ce que le mot préciosité est incongru à votre
avis ? Non, pas du tout. C'est un homme extrêmement éduqué, Richard de Fournival. Il est le fils du médecin du roi Philippe Auguste et il est chancelier de la cathédrale d'Amiens. Mais voyez-vous, quelque chose qui me sidère toujours, c'est que tout chancelier qu'il soit, il ne dit rien de la construction de la cathédrale d'Amiens, ce joyau de l'architecture gothique, qui se construit 1220-1280 au moment même où lui écrit.
Eh bien, merci beaucoup Jacques Darras d'avoir été si convaincant en nous parlant du cloître à la place publique, c'est-à-dire l'ouvrage, l'anthologie que vous consacrez à cette poésie médiévale du nord de la France entre le XIIe et le XIIIe siècle. Merci bien d'avoir été aujourd'hui si brillant, l'invité de la danse des mots, une émission proposée par Canopée et RFI, Valentine Bracelet, Lucie Bouclou, Véronique Durand.